Europe 1.
Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est à la fois un lieu d'évasion et une véritable prison. Aujourd'hui, vendredi thématique, comme chaque semaine sur Europe 1, on a choisi de vous parler toute la journée des réseaux sociaux. Nos enfants y passent des heures chaque jour en quête d'inspiration, de modèles, d'humour, d'informations. Mais dans cet océan virtuel de messages, de vidéos, de photos, le danger, lui, est bien réel. Léo en sait quelque chose, il a 15 ans, il devrait être en troisième, mais il suit les cours à la maison avec sa mère Leslie, à l'abri du harcèlement scolaire, des moqueries et des menaces de mort qui se prolongeaient sur Internet. Leur témoignage saisissant au micro européen de Johan Tritz.
Léo, en fait, il faut savoir qu'il fait de la danse. C'est parti de là. Sur un groupe WhatsApp qu'il avait avec sa classe, ils ont commencé à l'insulter.
Et c'est là où y a eu les menaces de mort et tous les messages méchants. En fait, moi, je voulais plus entendre parler de ces messages et je voulais plus les voir. Et j'avais honte aussi. Du coup, j'avais tout supprimé.
C'est une copine à Léo, en fait, qui s'est dit que ça allait beaucoup trop loin et qui, elle, m'a envoyé, en fait, les captures d'écran. Et donc là, suite à ça, j'ai pris le téléphone à Léo et c'est là où j'ai eu tous les messages. On arrêtera quand tu seras mort. De toute façon, tu mérites pas de vivre, etc., etc.
En fait, je pensais aussi que c'était de ma faute, que j'étais pas normale et tout.
Il allait au collège quand même avec la peur au ventre. Il a quand même été sous antidépresseur. On a décidé du coup de le déscolariser, de faire l'instruction à la maison.
C'est compliqué pour moi d'aller au collège et de passer devant mon ancien collège et tout. Je peux même pas.
Avec son papa, on a mis une application qui bloque les applications style Instagram, Facebook. Enfin, voilà, là, Léo a créé du coup un compte Instagram qui est sur mon téléphone où j'ai son code, où je peux avoir accès à toutes les communications. Et c'était la condition sine qua non. Normal, hein, c'est de son âge aussi, hein, tous ses copains longs, c'est surveillé plus. Quoi.
Le bouleversant témoignage de Léo et Leslie avec Johan Tritz pour protéger nos enfants et dénoncer le harcèlement. Deux numéros verts, notez-les, le 30-18 et le 30-20.
Bien, sachez qu'en moyenne, on passe 2h29 par jour sur les réseaux sociaux, c'est à peu près le temps du film Le Da Vinci Code.
Voilà. Ça fait long.
Pour y voir un film par jour sans les réseaux. On en parlera tout à l'heure à 8h40 avec Philippe Val et l'écrivain Abel Quentin, dont les réseaux sociaux sont au cœur de son dernier roman, Le Voyant des temps, publicité, prix de Flore l'année dernière. Il est 8h05, 7 mois après le début de la guerre en Ukraine. La question n'a toujours pas trouvé de réponse. Qu'est-ce qui a décidé Vladimir Poutine à lancer cette invasion?
Une question posée par nos confrères américains de CNN à Emmanuel Macron lors de son passage à New York. Entretien diffusé hier soir. Écoutez le chef de l'État, il a une analyse personnelle du déclencheur de la guerre.
C'est difficile pour moi de donner une explication. Quand il a décidé de lancer sa guerre, je pense qu'il a commis une énorme erreur. Aujourd'hui, je pense qu'après la contre-offensive, Vladimir Poutine est beaucoup plus sous pression. À présent, il est clair pour tout le monde que le dirigeant qui a décidé d'entrer en guerre, qui a décidé de l'escalade, c'est le président Poutine. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que c'est un ensemble de ressentiments, une stratégie d'hégémonie dans la région. Et je dirais que c'est une conséquence de son isolement pendant la pandémie. À ce moment-là, il a décidé de rompre complètement le dialogue que nous avions depuis 2014 et de partir en guerre. Je crois que toutes les discussions que nous avions eues ont été utiles.
Discussions qui n'ont pourtant pas freiné les ambitions du maître du Kremlin. C'est aujourd'hui que débutent les référendums d'annexion dans plusieurs régions de l'est de l'Ukraine. Ils doivent durer jusqu'à mardi. Combien de nouveaux soldats Vladimir Poutine parviendra-t-il à enrôler d'ici là? Selon Moscou, 10 000 réservistes se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée en 24 heures. Plusieurs médias assurent que nombre d'entre eux ont en réalité été emmenés de force sans aucune convocation. Bonjour Nicolas Tonnef.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie en direct avec nous. Beaucoup de jeunes Russes fuient leur pays depuis 3 jours pour ne pas rejoindre les rangs de l'armée de Poutine. À quoi ressemble-t-elle justement cette armée, Nicolas ?
Eh bien aujourd'hui, à une sorte d'ensemble qui ne fonctionne pas du tout. Hein. On a affaire à quelques professionnels très bons dans leur domaine, entourés de milliers d'hommes mal formés, avec un commandement problématique. Ça, c'est l'héritage soviétique. Hein. Les officiers, il y a très peu de sous-officiers. Les officiers sont donc sur les lignes de front en Ukraine. Ils s'y font tuer et la perte de compétences qui s'ensuit est dramatique sur la longueur, hein, parce que l'organisation, c'est des bataillons tactiques qui associent artillerie, infanterie, anti-aérien. Et tout cela a besoin de chefs ultra compétence, c'est la durée des combats qui révèle ses faiblesses. Et cet assemblage à la va-vite d'unités hein, qui ressemble à du bricolage ne peut rien face aux symptômes de fond qui portent un nom dans la société russe. Hein, c'est la diedovtchina, le bizutage du nouveau par l'ancien. Cette diedovtchina fait du terme armée en Russie un synonyme de mort et de terreur auquel il faut échapper à tout prix, d'où la fuite des meilleurs mobilisables et un niveau général des restants extrêmement faible.
Ça, c'est pour l'aspect humain. Sur le plan matériel, est-ce que l'armée russe est en meilleure posture?
Bien, pas vraiment. Hein. c'est aussi la révélation de ce conflit. L'armée russe est restée très soviétique malgré les investissements massifs qui ont été claironnés ces dernières années. Le tank le plus récent, par exemple, le T-14, qui est présenté en défilé sur la place Rouge, n'a été produit qu'à une vingtaine d'exemplaires. Et les usines supposées les fabriquer sont à l'arrêt, faute de composants électroniques. C'est pareil pour les missiles modernes. Il y en a si peu que les Russes ont ressorti des engins déclassifiés il y a 15 ans, avec du coup des bombardements très appréciés. Alors donc, cette armée aligne des chars, des transports de troupes, des canons par milliers. Mais ce matériel ancien est très vulnérable et surtout correspond à une époque où les généraux pouvaient sacrifier machines et hommes sans compter, ce qui n'est bien sûr plus possible aujourd'hui.
Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.
8h08, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? La Chine vient de signer une première mondiale. Tenez-vous bien, elle a cloné un loup sauvage.
Une prouesse biologique qui a demandé au moins 3 ans de pratique. Objectif pour les scientifiques, sauver des espèces en voie de disparition. À Pékin, la correspondance de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
À partir d'un simple échantillon de peau, les scientifiques chinois ont réussi à créer une copie conforme en laboratoire de ce loup sauvage d'Arctique. La croissance de ce bébé loup, qui vient de fêter ses 100 jours, est une première mondiale. Maya, c'est son nom, va être suivie pendant plusieurs mois avant de pouvoir retourner dans la nature à une réserve du nord de la Chine. Ro Jiangming est vice-président du comité national chinois d'experts sur le clonage des animaux.
Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes d'un chien de race Beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées.
Mais en Chine, le clonage est aussi une affaire de gros sous. Le laboratoire Sinogène, qui a réalisé cette première mondiale, pratique depuis 2019 le clonage des animaux domestiques. Pour cela, un simple échantillon de peau ou de poils est nécessaire et aussi un très gros chèque. Il faut compter 35 000 euros pour un chat, 50 000 pour un chien et 80 000 euros pour un cheval, afin d'obtenir le clone de son animal favori. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà un bon vendredi thématique en perspective, l'éthique médicale autour du clonage. Allez, pour terminer, c'est une balle qui va briser des millions de cœurs, une balle jaune bien sûr, c'est la dernière de Roger Federer ce soir.
Après un ultime match à Londres lors de la Rod Laver Cup, tournoi de prestige qu'il a lui-même fondé il y a 5 ans, la légende suisse du tennis va mettre fin à sa carrière. Et quel point final en double avec son rival et ami de toujours, Rafael Nadal, véritable cadeau d'adieu pour les fans. Et c'est surtout la plus belle manière de quitter les cours, Jean-François.
Oui, c'est comme si Federer, conscient de ses problèmes physiques récurrents au genou, avait tout planifié. Notre consultant, Cédric Pioline, salue l'artiste suisse une dernière fois.
Tout athlète rêve de contrôler ou de pouvoir être décideur, je dirais, de sa sortie. Il a décidé de le faire là, à Londres. Donc je trouve que c'est bien, c'est mérité. Il aura les hommages qui lui sont dus. Il y aura beaucoup de réactions, bien au-delà du monde du tennis.
Ce soir à Londres, l'émotion étreindra les 20 000 chanceux qui ont réussi à trouver une place. Nadal, Federer, côte à côte, cela repose la question du meilleur joueur de tous les temps. Federer est-il celui-là? Réponse du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.
Sur le jeu, sur la technique, sur la pureté, c'est probablement le meilleur joueur et le plus complet. Il a donné envie de jouer au tennis à énormément de gens. Je ne sais pas quel style de jeu va pouvoir remplacer le génie qui était Roger Federer.
L'homme aux 20 victoires en tournoi du Grand Chelem promet de ne pas trop s'éloigner de ce tennis qu'il aura incarné durant près d'un quart de siècle. Je ne serai pas un fantôme, assure-t-il.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau pour votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Manon Aubry, députée de la France Insoumise au Parlement européen, est l'invitée d'Europe Matin.